On va commencer ce matin par cette décision quand même importante qui a été rendue dans le procès qui touche Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et les autres, parce qu'on voulait forcer les journalistes Louis Lacroix, notre collègue, et Marie-Maude Denis à divulguer les sources de leurs différents reportages. Évidemment, on sait qu'il y a eu la commission Chamberlain, il y a également cette loi au fédéral. Alors, c'est un test. L'avocat des médias est avec nous, Maître Christian Leblanc. Maître Leblanc, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, premièrement, là, pourquoi on voulait absolument connaître les sources de ces deux journalistes?
Bien, c'est que Marc-Yvan Côté faisait une requête et fait toujours une requête pour arrêt des procédures, alléguant abus pour coulage d'informations. Et une des preuves qu'il souhaitait obtenir était qui auraient été les sources, parce que, prétend-il, ultimement, on pourrait découvrir qui était à l'origine de cet abus qu'il allait.
OK, mais on convient qu'il y a eu des fuites. Est-ce qu'on a besoin de savoir qui est à l'origine pour déterminer si une fuite nuit ou pas à un procès?
Bien, c'est entre autres ce qu'on a plaidé, M. Arcand. Il y a un certain nombre de preuves déjà au dossier. Il y a même certains aveux du DPCP. Et ce que l'on a plaidé, c'est que c'était pas utile, c'était pas nécessaire. Même que si on découvrait qui sont les sources, ça ne veut pas dire qu'on découvre qui a été à l'origine du coulage. C'est d'ailleurs aussi ce que le juge rappelle. Et donc, entre autres, pour ces motifs-là, le juge casse les assignations et fait droit à notre requête en cassation d'assignation des journalistes.
Est-ce que pour vous, c'est une décision qui est marquante dans le sens que c'est, appelons ça de la jurisprudence peut-être, là, qui peut donner le ton pour des requêtes similaires dans le futur?
C'est évident que c'est le premier jugement qui applique la loi, le projet de loi S-231, qui est maintenant la loi, c'est-à-dire qui a amendé la loi sur la preuve au Canada. Et donc, comme vous dites, ça donne le ton. Clairement, c'est un premier jugement qui applique cette loi et qui maintient la protection des sources journalistiques. Donc, pour le journalisme d'enquête, c'est une bonne nouvelle.
Dans quelles circonstances on pourrait forcer un journaliste, à partir de la loi là, qui a été adoptée, à dévoiler ses sources?
Le juge doit toujours faire un exercice de pondération. Puis les mots utilisés par la loi, là, c'est il faut que l'intérêt public dans l'administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public à préserver la confidentialité de la source. Alors, c'est toujours du cas par cas. Bien évidemment, quand il s'agit de déterminer un crime grave, la Cour suprême a déjà dit que si un élément matériel de preuve qui est en possession d'un journaliste serait la clé pour déterminer et élucider un crime grave, ben peut-être que là, puis je dis peut-être parce qu'il faut toujours faire la pondération, mais peut-être que là, ce serait permis. Mais clairement, la loi est rédigée, puis le renversement du fardeau de preuve d'ailleurs en est un exemple, est rédigé pour protéger les sources d'abord, bien que ce soit pas, évidemment, là, il faut en convenir, une protection absolue.
OK. L'autre chose qui m'a frappé durant cette partie du procès, ça ressemblait là vraiment à une expédition de pêche. Là. On lançait des lignes, on fait venir Lino Zambito, on va faire témoigner des journalistes. On n'est pas sur des faits, on est sur parfois des impressions. C'est quoi cet exercice-là de la défense?
Mais le juge note dans son jugement que, entre autres, on voulait faire entendre ou on aurait voulu faire entendre des voix aux journalistes pour voir s'ils reconnaissaient possiblement leurs sources. Et là-dessus, le juge parle justement d'une expédition de pêche et refuse de se prêter à ce jeu-là. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Les avocats font tous leur travail, mais nous, notre travail, c'était d'appliquer la nouvelle loi et de s'assurer que les sources soient protégées.
Merci, Maître Leblanc. Maître Christian Leblanc, qui est l'avocat donc des médias. Premier volet. Deuxième volet avec Monique Néron. Dans ce jugement qui a été rendu, outre ce dont on vient de parler, il y a un aspect qui concerne l'affaire Ouellette.
Oui, dans ce jugement de 35 pages, il y a effectivement quelques paragraphes qui concernent les origines du coulage dont Maître Leblanc parlait il y a quelques minutes. Stéphane Bonhomme, on le sait, est un ex-enquêteur de l'UPAC suspect dans l'affaire des fuites du projet Machuri, qui est devenu l'affaire Ouellette. Il a complètement nié lors de son témoignage avoir été impliqué de quelque façon que ce soit dans les fuites. Il a dit, et je cite, il s'est dit, en fait, fait totalement innocent à 100%, mais la suite et surtout le constat du juge dans ce même jugement est fort intéressant. Le juge résume la situation. Monsieur Bonhomme est à l'emploi de l'UPAC depuis 2011, insatisfait de ses patrons, connu pour ses commentaires désobligeants. Entre autres, il avait déjà traité un de ses supérieurs d'imbécile et distribué à l'interne une caricature de Lafrenière en tortue qui parle lentement. Et lui a déjà travaillé sur les projets Joug, Lierre et Machuré. Des enquêtes, entre autres, qui, on le sait, visent Jean Charest, Marc Bibeau, Nathalie Normandeau et les co-accusés. Et jusqu'à sa suspension en octobre dernier, il était assigné au Centre de gestion des signalements. Quand son domicile a été perquisitionné l'automne dernier, les policiers ont trouvé chez lui des documents de projets d'enquête sur lesquels il n'avait pas travaillé. Autrement dit, rien ne pouvait expliquer la présence de ces documents-là chez lui. Et il y avait, entre autres, là-dedans, Paul, des tableaux qui décrivait l'état et l'évolution des enquêtes en cours à l'UPAC. Dans sa garde-robe, une liste de tous les projets d'enquête avec les targets, les suspects. Et il avait déjà eu des CD en sa possession avec une partie de la preuve sur Nathalie Normandeau. Un CD qui, selon les dires de l'UPAC, a disparu et n'a jamais été retrouvé. Son explication à lui, c'est de dire que, un, il n'a jamais eu souvenir de ce CD-là. Et concernant les tableaux dans la garde-robe, il dit « Je les ai apportés chez moi par erreur. » Une semaine ou deux avant la perquisition. C'est vrai que ça aurait jamais dû sortir du bureau. J'ai oublié de les rapporter. C'est intéressant, comme je vous dis, là...
Attends un peu là. C'est une erreur, puis j'ai oublié de rapporter les documents.
Les documents.
OK.
Et le juge, qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Il retient que ses explications sont, et je cite, « farfelues » et que ça indique une chose, qu'il semble bel et bien avoir participé aux fuites des documents.